on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à vos questions et aux thèmes sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Parce que j'ai été gavé assez vite. Hein. Quel est le point sur lequel vous voulez que je revienne ? Par rapport au texte de Nietzsche, par exemple, est-ce que ce texte vous paraît amusant, choquant, vous donne la raison ? Et qui a raison ? Comme quand il dit voir souffrir fait du bien. Tout de suite, la phrase est épaulée. Dans le droit, le bel et la balance. La balance, on délibère. Est-ce vrai de dire que la punition, c'était l'alibi de la cruauté humaine ? Tant regardez aujourd'hui, on dit la peine de mort est devenue beaucoup plus de douceur. Hein. Une injection létale. Non, je provoque, hein. Alors, ceci dit, pour les Américains, quand on avait la peine de mort en France, ils nous considéraient comme des sauvages. Hein. La guillotine, vous rendez compte. Ça fait mal. La chaise électrique aussi. Hein.
Est-ce que dissuasif de la peine de mort ?
Oui, enfin, non, il n'a pas été prouvé. Hein,
La punition,
voilà. C'est le. Il n'y a aucune étude qui a prouvé que la peine de mort avait un effet plus dissuasif que la. Moi, ce qui me gêne dans l'analyse de Nietzsche, c'est qu'elle a des côtés un peu faciles. Alors c'est vrai que les peines du passé étaient pas dans le domaine de la souffrance. En même temps, est-ce qu'on n'est pas tenté avec lui de jeter le bébé avec l'eau du bain ? Parce que sans la dimension sanction, le droit ne peut pas se faire respecter. Le droit qui ne se fait pas respecter, c'est pas un droit. Jusqu'à preuve du contraire, les personnes à la loi, sans avoir besoin de la peur de la sanction, sont à l'obligation morale. Mais oui, mais c'est pas tout le monde, quoi. Hein. Qui ne connaît pas la coercition et la.
Il me semble que notre connotation d'ordre.
Oui, absolument. Et pour la société, pour ce qu'on appelle le camp des victimes aussi, bien sûr. Et parfois même pour le.
Voilà.
Bah, on va dire.
Voilà. Mais c'était malsaine. Ou est-ce que c'est pour le plaisir de voir souffrir les
gens ? Oui, c'est intéressant parce que ça me fait penser. Alors, merci de cette intervention. J'évoquais avec humour tout à l'heure un match de boxe. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de curiosité malsaine, comme dans la corrida ? Enfin, moi, je sais pas. La corrida, je suis pas tellement pour. Hein. On voit quand même un taureau se faire mutiler. Je pose la question, j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas l'expression d'un plaisir à voir souffrir ?
Et la violence.
Oui, absolument. Oui, oui. Il y a souvent un fort pouvoir d'identification. Hein.
Mal volontairement à quelqu'un.
Ah oui.
Très choquante. Là.
Bah, choquée, oui, absolument.
Très,
et là.
Très saignante. Si
ah oui. Et pour ceux qui se plaisaient à regarder ces vidéos. Avant qu'elle soit enlevée d'Internet, on parlait de voyeurisme.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, mais c'est tout à fait dans le sens de ce que dit Nietzsche. Les gens qui allaient voir des exécutions, ils faisaient du voyeurisme.
Il y a deux sortes de mal.
Oui.
C'est très différent, et avec les nuances...
Voilà, mais la question, c'est de savoir si la thèse très polémique de Nietzsche est acceptable ou pas, qui consiste à dire mal pour la justice, rejoint l'autre, quoi. Mmh,
oui.
Voilà. Avec, en plus, une sophistication dans l'art de faire souffrir, apparue suspecte à bon nombre d'heures, les besoins de faire souffrir un condamné. Nietzsche et après Foucault ont montré que la peine, c'était pas l'emprisonnement, c'est-à-dire la paix, faire souffrir. C'était ça la peine. Il fallait que l'autre souffre. Là où Nietzsche parle d'une justice, parce qu'en fait, un sadisme pas son nom, et qui se part de la légitimité, de la bonne conscience, de faire payer sa dette à. Et même plus qu'atténué, non ? Enfin, il me semble que maintenant, on fait plus peine, maintenant, c'est la prison. Alors après, on peut discuter sur le fait de savoir si parfois les comptes pas. Pas, parce qu'il y a des gens qui disent, mais comme une torture, enfin, je sais pas. Hein. Mais c'est sûr qu'on a gommé cette dimension, faire souffrir. Maintenant, il y a. Heureusement. Enfin. Je sais pas si on peut dire aujourd'hui, comme le disait Nietzsche au 19e siècle, qu'il y a dans la justice une part de sadisme. Peut-être que c'est une pensée qui est désuète maintenant. Hein.
Oui. Quelques oui. On a pas
ah oui, oui. On a donné le mal pour le mal, c'est ça.
Voilà, on tourne en rond.
Oui, absolument. La réponse est de même nature que le problème, c'est voilà. Ça.
Une chose. Dialogue.
Alors oui.
Dans notre société.
Nous... Oui, et donc même faire disparaître la violence. Je viens de vous dire qu'il y a une partie que j'ai pas pu développer avec vous dans ce que j'avais prévu parce que je voulais respecter le temps et je pourrais vous en parler 2 minutes si vous voulez. De manière à... C'est la partie psychanalytique du problème. Il y a un très très beau texte de Freud qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Très beau texte, hein, que je vous conseille à l'occasion, il est Malaise dans la civilisation. Texte écrit Juste après la Première Guerre mondiale, et Freud était particulièrement déprimé, il faut bien le dire, par peur de cette guerre, de souffrance. Et c'est à la suite de d'une réflexion qu'il a eue sur la guerre, je dis le contexte, Freud a écrit ce texte, Malaise dans la civilisation, et Freud soutient la thèse selon laquelle le mal, le problème du mal chez l'homme, le fait que l'homme fasse du mal, il écrit que c'est un problème indépassable. Quand il écrit ça, ça a beaucoup de portée, parce que, chez un certain nombre de philosophes, le mal, c'est un problème provisoire. Les philosophes pensent qu'un jour, lorsqu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus ou presque plus de criminels, on sera devenus des êtres plus évolués spirituellement, le mal sera dépassé. Alors quand, dans 2, 3 000 ans, on ne sait pas. Mais finalement, le mal est toujours pensé, le malheur humain que l'homme fait aux autres hommes, hein, comme un passage, comme une crise de croissance, comme un... parce que l'homme était encore un enfant, un bébé, ou un adulte, un adolescent turbulent. Donc le mal est toujours pensé comme un moment dans l'histoire humaine, mais qui sera dépassé. Il y a une époque où il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus... Et ce que dit Freud, le malaise dans la civilisation, cette idée-là, c'est un mythe. Tant qu'il y aura des hommes, écrit-il, avec beaucoup d'assurance d'ailleurs, il y aura du mal. Il y aura des hommes qui feront du mal à d'autres hommes. Alors vous pourriez vous demander, mais sur quoi est-ce qu'il appuie tant d'assurance, quoi ? Comment est-ce qu'il peut être aussi sûr ? Lui, il va s'appuyer de l'inconscient et sur la connaissance que la psychanalyse donne de l'homme. Et Freud va utiliser une expression qui n'avait jamais été utilisée avant lui, une expression qui est très forte. Hein. Vous savez qu'on considère que Thoreau a raison, mais on considère, en tout cas à l'époque on considérait, puisque maintenant on s'y sert, que l'homme a des instincts. Non, ça peut remettre en question cette question d'instinct. Mais il y a des comportements. Nietzsche dit que l'homme a l'instinct de connaissance. L'homme est l'être qui cherche le plus à connaître. N'importe quelle autre espèce. On parle toujours parfois d'instinct maternel. On parle d'instinct de conservation. Eh bien, Freud va écrire dans Malaise dans la civilisation qu'il y a chez l'homme un instinct d'agression. Instinct d'agression. Et si on admet cette thèse, un instinct c'est inné, c'est naturel. On n'efface pas un instinct. Si on accepte cette thèse, eh bien, voilà, pour Nietzsche, problème de la violence humaine. Et le texte de Freud est magnifique. Il dit que l'homme a en lui un instinct qui le pousse à voler, à asservir l'autre, à abuser de lui sexuellement, à l'humilier. C'est dans les gènes de l'homme. Ça fait partie de lui, aussi bien que son visage, que ses mains ou que ses bras. Ça fait partie de l'homme. Et instinct d'agression, enfin, je ne connais pas d'autres philosophes ou d'autres penseurs qui, avant lui, avaient eu cette. Qu'aucune civilisation, aussi bien organisée qu'elle soit, ne parviendra à éradiquer.
Oui. Je pense qu'il y a un état de conscience que le droit progresse. Si on soit. C'était pas de
la. Et c'est pour ça qu'elle c'est elle qui se faisait lapider d'ailleurs.
La famille devait quitter le village.
Ah oui, d'accord.
Ça existe encore. Donc, c'est une progression dans les mentalités.
Oui.
Ce qui se passe aux États-Unis.
Vous pensez que cette prise de conscience, qui se traduit par ce qui se passe aux États-Unis, ça peut faire en sorte que les choses ne reviennent plus.
Que les femmes déjà osent parler.
Ouais. Ben non. Oui, mais est-ce que ça va enlever, disons-le, est-ce que ça va enlever à certains hommes
Ils ont plus peur, ils craindront davantage, ils seront davantage dénoncés. Quelquefois, dans les transports publics, il y a des agressions qui se font.
Donc vous direz que l'homme est amendable, quoi.
L'homme est perfectible.
Perfectible.
Peine de mort. Il y a des temps, il avait entendu que Colomb avait été massacré. Il avait l'idée d'équité, donc quel en fait par la grand-mère,
Ça, je savais. Oui, pour Camus, je sais qu'il avait écrit contre la peine de mort. Pardon. Alors voilà, alors, juste pour terminer, parce que j'ai fait référence à Freud, hein, lui, il s'appuie, parce que c'est pas une idée comme ça qu'il balance, pas de soi de parler d'un instinct d'agression. C'est-à-dire que ça veut dire que l'homme ne sera pas sauvé de lui-même, quoi, hein, si on accepte jusqu'au bout les implications de cette expression. Lui, il s'appuie sur ce qu'il appelle l'organisation pulsionnelle de l'homme. Hein. Avant d'être un être de raison, un être capable de manipuler des concepts, de la logique, nous sommes d'abord des êtres pulsionnels. La pulsion, vous savez, je vous l'ai dit déjà, Freud la nomme le ça, le domaine du ça. Parce que la pulsion, ça s'exprime par des conduites compulsives. Ça a été plus fort que moi dans une action. Ça, c'est une. Donc, il désigne en fait cet acte irréfléchi qui domine, hein, Et un bébé, c'est, son moi est égal à son ça. Un bébé, un enfant qui n'a pas encore intégré les animaux, il est dans la pulsion, selon le principe d'une ambivalence, quoi, hein, amour et haine. Et ce qui est très étonnant et très intéressant, et je le relis moi à ce thème de l'instinct d'agression, Freud a montré à mon avis de manière décisive et extrêmement brillante que l'amour et la haine, en fait, ce sont les deux faces, très souvent, d'une même pièce de monnaie. C'est-à-dire que la haine, ça peut être une manière d'exprimer de l'amour. Enfin, un amour qui n'a pas été entendu, ça, on le voit bien en psychanalyse.
C'est un lien.
C'est un lien. La haine, c'est un lien. Freud le montre bien dans la première phase de transfert, hein, lorsqu'un patient commence à développer une relation d'amour vis-à-vis de son psychanalyste, par la période lune de miel, hein, lorsque le psychanalyste ne répond pas à une demande d'amour qui se marque par plein de choses, hein, la demande d'amour se convertit en son contraire, va devenir hostile. Et il est nul, c'est le plus nul de tous. En même temps, on veut y aller quand même, hein. On dit vouloir y aller, parler chez lui. Pourquoi ? Parce que l'amour et la haine, dans ces circonstances-là, sont deux expressions différentes de la pulsion. En fait, la haine, c'est la continuation de l'amour par d'autres moyens. Je parle dans ces relations transférentielles. Hein. Pas que quand un peuple en attaque un autre avec la haine, ce soit ça. Hein. Mais dans les relations psychologiques, c'est souvent ça. La haine, c'est de l'amour qui se convertit. En fait. Ce qui fait que ce besoin d'agression, cet instinct d'agression, le rattache à ce qu'il y a de plus profond en nous, les pulsions. Le cœur brut. Oui, parce que la pulsion, qu'est-ce que c'est bien ce mot pulsion, hein ? Tare en latin, ça veut dire pousser. D'une part, la pulsion, c'est ce qui nous fait vouloir continuer à vivre. Vouloir continuer à vivre, ça s'appelle exactement ça, en fait. Hein. La dimension la plus brute de l'individu. Moi, je vous ai dit, moi, je trouve que c'est une thèse quand même très, très spéciale. Elle signifie, si on l'accepte, hein, que quelles que soient les lois, quelle que soit l'organisation de la société, il n'y aura toujours des criminels, il n'y aura pas toujours des victimes, il y aura toujours des ecclésiastes. Rien de nouveau sous le soleil. Oui.
Au mouvement de terre aussi des pulsions.
Tu veux dire qu'on aurait pu ne pas passer par ça, quoi.
C'est très ambivalent. On est des mentalités.
Il faut humilier. Mais c'est pensé comme une dette. On a été humilié par certains hommes. Balance ton porc. On va à leur tour les humilier. C'est pensé aussi comme une dette. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Il y a une forme
c'est
de.
C'est très vindicatif.
Ah oui. Il y a une violence qui s'exprime. Pardon ?
Il n'y a pas que ça.
Ah oui,
d'accord.
Garde-fou ou des exutoires. Voilà. Alors ça, c'est votre intervention me donne un peu l'occasion de parler de la culture. Mais
oui, je voulais dire qu'on parle du mal que ça.
Ça a été posé en filigrane.
Oui, oui, bien sûr, mais
au sens le plus basique. Hein.
On s'interroge beaucoup sur le mal. Pas s'interroger sur le mal. On tourne en rond parce qu'on se rend compte qu'en fait, le mal, au lieu. Enfin, on implique de nouveau le mal. Mais est-ce qu'on s'interroge sur ce qui est le bien ? Moi, ce que j'ai. Enfin, bon, l'homme est bon.
Alors
sans être utopiste, hein.
Il y en a un seul à l'avoir dit, et qu'est-ce qui s'est pris dans la figure à l'époque ? C'est Jean-Jacques, Rousseau.
Oui, mais. Vous
avez raison.
Mais, oui, est-ce qu'on ne se pose pas les mauvaises questions ? Non, mais je veux dire.
C'est sur le bien.
Mais le bien, peut-être que si on s'est sur le bon au lieu de se centrer sur le mal.
Absolument. Alors, moi, j'ai bon, pas parlé de Rousseau.
C'est pour ça que je dis.
Et encore une fois, c'est vraiment parce que le sujet est vaste. Hein, mais là, pour votre intervention, on peut en parler, bien sûr. Hein. Je pense que tout le monde connaît la thèse de Rousseau qui a été exprimée dans une page qui s'appelle L'origine des fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et Rousseau s'interroge sur le fait de savoir pourquoi. L'homme tel qu'on le connaît, en tout cas l'homme de son époque, hein, 18e siècle, l'homme fait le mal en fait. Hein. Et la thèse de Rousseau consiste à dire que l'homme n'est pas mauvais, ne n'est pas méchant, n'a pas de mauvais instinct en lui. C'est tout le de Freud. Hein. D'ailleurs, le texte de Freud, à un moment donné, il cite Rousseau à la suite de sa page en malaise pour le critiquer. Hein. Mais la thèse de Rousseau, c'est que ce n'est pas l'homme qui est méchant, ou en tout cas qui a des instincts mauvais. L'homme est porté vers le bien, dit Rousseau. Est porté vers le bien parce qu'il a en lui une capacité incroyable et de pouvoir se mettre en empathie avec un. Lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, même ça se calcule pas, hein. On est en empathie, on ressent ce qu'il ressent et on a envie de l'aider. Et d'ailleurs, Rousseau fait de l'empathie et ce qu'il va appeler aussi la pitié, mais dans un effet de l'empathie, c'est l'origine même de la morale. On ne penserait pas à aider quelqu'un à vouloir lui faire du bien si on n'avait pas l'empathie. Par conséquent, l'homme, par cette empathie, est amené à vouloir aider son prochain. Alors je suis obligé de me dire, l'empathie chez Rousseau, qui est très noble, a été beaucoup critiquée au XXe siècle par des auteurs comme Jonas, qui dit « Mais quelle empathie les capots dans les concentrations avaient pour les prisonniers ? Ils n'en avaient pas. Où est-ce qu'elle était passée, leur empathie ?» Et Lévinas qui disait « Mais les gardiens de guerre, quand on ne se gardait pas comme des hommes, mais comme des saints. » Cette notion d'empathie est très critiquée aujourd'hui. En tout cas, chez Rousseau, elle aide à fonder la morale. Et Rousseau dit ce qui a perverti l'homme, c'est l'organisation de la société. Lui, il pense à une organisation en particulier. Et la phrase clé de Rousseau consiste à dire « Premier, là je vous la cite texto, elle est propre. Le premier qui a enclos un terrain, a de dire « Ceci est à moi, causa la ruine de l'humanité. » Autrement dit Rousseau. Oui, c'est la propriété privée. Dès que des gens s'accaparent des biens, qui disent « C'est à moi », ils laissent rien aux autres. Et ça crée de la jalousie, c'est normal. Et l'homme qui était bon, il devient méchant. Alors.
L'homme est bon, c'est la société.
Pardon, voilà. Mais la société avec la propriété privée. Lui, en fait, il met vraiment l'accent sur la propriété privée. Il dit les fruits de la terre sont à tous, et la terre est à personne en particulier. On doit être dans le partage. C'est une philosophie de partage, celle de Rousseau. Mais la société dont parle Rousseau, c'est la société avec des privilèges, c'est la société de l'Ancien Régime. Et vous savez combien il l'a critiquée, cette société, dans le contrat social. 20 ans après, les révolutionnaires, c'est par cœur des extraits du contrat social. C'est l'Ancien Régime, en particulier. Privilèges, avec toujours les seigneuries, enfin... Alors oui, Jean-Christophe, à penser le bien,
penser
et
le
plus
bien.
À penser le mal,
penser
comme vous avez
bien
dit.
Les biens dont nous bénéficions, parce que... La deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'on les a placés dans un cadre sur leur temps de survie, tous. Ouais, et donc ceux qui étaient sur.
Moi, j'ai rien contre les Allemands.
Alors que par contre, ceux qui étaient là dans une violence.
Alors là, moi, je voudrais prendre la défense de Freud. Moi, j'adhère à ce que tu dis. Hein. Moi, quand Freud écrit à un instinct d'agression et qui s'appuie sur la Première Guerre mondiale, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Les soldats qui voulaient, ils se faisaient fusiller. Hein. Mais Freud s'appuie aussi sur d'autres expériences. En fait, quand on observe un enfant, pas dans le comportement de l'enfant, Freud est le premier à avoir démythifié l'image de l'enfant comme lieu de l'innocence. Et un enfant, c'est pas cette image qu'on a pu avoir. Ils sont capables d'arracher les pattes d'un chat, de faire des choses extrêmement violentes et ça leur pose pas de problème. Enfin, d'un chat, d'un chien, ça leur pose pas de problème. Lui, il constate que la violence, elle est en nous. On peut la ressentir tous. Elle est en nous. Et on la voit à l'œuvre chez l'enfant. L'enfant n'est pas cet être, comment est-ce qu'il écrit ça ? Cet être innocent. Quoi. La violence, on la sent en nous. Chacun d'entre nous. Et quand on veut la dominer, et peut-être d'abord là, parce que le fait d'avoir à faire un effort pour dominer sa violence intérieure, pour quelles que soient les situations, c'est d'abord fait de cette violence. Pas une violence. Alors, sur le premier point, parce que je vous en ai pas parlé parce que ça aurait été trop long sinon, il y a un certain nombre de doctrines philosophiques, notamment dans l'Antiquité, qui à la question y a-t-il une rationalité du mal, aurait répondu cette question n'a pas de sens parce que le mal n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors, vous voyez, là, ça résout le problème. Alors, un exemple, les philosophes stoïciens, le stoïcisme, qui a eu plusieurs grandes figures. Le fondateur, c'était Chrysippe, mais le plus connu, il y a eu aussi un empereur qui était stoïcien, il s'appelait Marc Aurèle. Pour les stoïciens, ce qu'on appelle le mal, en fait, c'est pas du mal. C'est toujours un moment du bien. C'est un peu comme Hegel, ça ressemble pas mal à Hegel. On croit que quelque chose est un malheur, un décès... On nous a volé nos affaires à la piscine. En fait, quand on voit l'ensemble des événements, en fait, c'est un mal pour un bien. À la fin de l'enseignement des causes et des effets, ce qui nous apparaissait ponctuellement comme un mal, en fait, c'est une pièce d'un enchaînement qui est bien. Lui. Ce qui fait que chez les stoïciens, le mal disparaît, c'est un moment du bien. Et c'est vrai que c'est une tendance, ça chez certains philosophes, à vouloir gommer le mal, à en faire le moment d'un bien. Comme si le malheur qui pouvait nous arriver, en fait, au final, Prenez l'idée. En fait, le mal n'existe pas, quoi. C'est illusion, parce qu'on voit trop près les choses. Comme la personne qui, je sais pas moi, qui rate son train, c'est pas un mal, mais ça, on va dire, c'est un pépette. Elle avait raison de rater son train, enfin, elle a eu beaucoup de chance.
Au final, il a déraillé.
Parce qu'au final, il a déraillé. Et même le déraillement, après, serait été intégré. Oui. Fait que chez les stoïciens, il n'y a pas plus optimiste que. Enfin, Hegel a repris ça aussi, de sa famille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aspects que j'ai évoqués sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Vous avez vu, c'est un très vaste sujet. Hein. Alors, oui, je vous en prie.
Concernant l'initial, y a-t-il une ration? J'ai eu l'impression que les docteurs, que le mal, enfin que la raison, pardon, peut englober le mal.
Donc du bien, quoi.
Du bien. Ouais, mais c'est ce que vous disiez. On pourrait penser, alors non pas le mal comme quelque chose de rationnel, comme une autre rationalité. Comme le fou. La folie. Donc, est-ce que. Ouais, une autre rationalité. Vous voyez ce que je veux dire?
La rationalité différente de la.
Exactement de la même manière que l'interné en hôpital psychiatrique. Avoir un rapport d'être rationnel, on ne peut pas présupposer chez lui. Ça aurait un sens. Est-ce que ça permet pas d'excuser, mais peut-être de rendre de.
Ah, mais moi, elle a un sens. Hein. En tout cas, moi, elle me fait penser à Jacques Lacan, bien sûr. Hein. Vous savez que Lacan, donc psychanalyste français Lacan disait qu'il y avait un langage de la folie. Il y avait ce qu'on appelait encore à l'époque la folie, le terme a disparu maintenant. Hein. Il parle plus de psychose, il dit qu'il y avait un langage de la folie, il y avait un comportement qui avait sa logique propre. Il n'a pas été jusqu'à dire qu'il y avait sa rationalité propre, hein. Mais on n'en est pas loin, en fait, hein, de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme irrationnel, c'est peut-être une autre forme de rationalité. Ceux qui sont allés aussi crèche, ce sont alors pas les psychanalystes, mais les ethnologues, figurez-vous, hein, qui ont considéré que ce qu'on appelait avant, avec beaucoup de mépris, hein, les sauvages, la pensée sauvage, c'est le titre de Claude Lévi, appelé la pensée primitive, sauvage, les mœurs des barbares, tout à fait. En fait, c'était une autre rationalité. Une autre rationalité. Et là, évidemment, c'est extrêmement dangereux et déstabilisant de penser les choses comme ça, parce que ça veut dire que ce qu'on appelle la raison, la rationalité, une anecdote, je me souviens d'un ami qui racontait qu'il avait ses collègues profs de philo comme lui, mauritaniens, il y avait Descartes, âme de terminale, et il me disait, mais quand ils sortaient du lycée, eux, les profs de philo qui gardent la raison de ça, ils allaient faire des messes vaudou. Alors, au niveau schizophrénie... On dit, il y avait la rationalité des Blancs. Et puis après, il y avait leur conception à eux de l'ordre du monde. Pas la même, quoi. Alors, est-ce que la rationalité, c'est uniquement la ration extrêmement dérangeante, parce que si on dit oui, mais vous vous rendez compte que prend la philosophie. Oui. Donc, il est pensé dans des termes plus biologiques ou anthropologiques, quoi. Oui. Enfin, moi, je pense à des ethnologues, surtout, pas tellement des philosophes. Considère que qui intègre complètement hein, le mal, le fait d'avoir à souffrir de danger, hein, comme une des conditions adaptatives en fait. Hein. Je pense à il y a un ethnologue qui a montré que dans les sociétés dites primitives, hein, mais c'est pas péjoratif, ritualisées, et en particulier au moment où l'adolescent va devenir adulte, il passe par ce qu'on appelle une initiation. Là, cette initiation est plein de dangers. Bon, les faux dangers. Hein. Dangers qui miment les dangers de la vie réelle, les souffrances possibles à craindre. Mais ces rites initiatiques, qui sont très bien décrits hein, par ce ethnologue dont j'ai oublié le nom, là, ces rites initiatiques sont là pour montrer que justement, comme vous l'avez dit, hein, le mal, ou le fait d'affronter le danger, quoi, on va dire, fait partie et de sa capacité à et les dangers, en fait. Hein. Donc, c'est le mal comme valeur adaptative, comme faisant partie des conditions adaptées. Et ça, c'est une pensée très darwinienne, on va dire, hein, mais qui est quand même assez récente. Hein. Dans les philosophies classiques, comme le mal, c'est surtout comment se débarrasser du mal. Il y a très peu de... À part peut-être la tragédie grecque. Hein, on voit le mal comme une expérience nécessaire et salutaire. Chose dont on a besoin. En règle générale, le mal, c'est ce qu'on doit éliminer. Alors, le mal conçu comme l'affrontement des dangers. Hein. Parmi les rites initiatifs, bander les yeux des gens, ils devaient traverser. Ils avaient une espèce de. Donc, ils devaient passer par d'aller de case en case, où ils avaient l'impression à chaque fois qu'ils allaient risquer leur vie. Ils ne la risquaient pas, hein. Mais c'était une manière de mimer l'existence. Mais la dimension à la souffrance, à le danger, au malheur, à la noire de l'existence. Là, c'était pas l'ombre au tableau.
Oui. Il y a à travers la frustration qu'on trouve.
Oui.
C'est pareil.
L'homme met derrière le mot malheur ou mal, il y a plus que de la frustration. Hein. Parfois une désintégration. Quoi, de...
Oui.
Oui. Oui.
Il
aura la même. Ce qui est un mal pour nous est un bien pour lui. La méchant volontairement, parce que pour lui, c'était un bête. Tout ça, c'était. Fait que là, les... bon, voilà, là... Et moi, je voulais juste revenir sur l'idée selon laquelle notre rationalité, en fait, c'est la nôtre. Quoi. Elle est très juste. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre conception de la rationalité? Elle, ce que nous on appelle le mal, n'est plus le mal. C'est dérangeant parce que ça relativise complètement. Avant les sciences, c'est la discipline qui a imposé le logos, c'est-à-dire la raison d'explication du monde. Moi, je me souviens de ce que disait un philosophe très contemporain, un grand philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, qui dit que la raison, il appelle la raison communicative. La raison, en fait, c'est quoi, dit-il? C'est un ensemble de principes de communication sur lesquels une société se met d'accord. Dialogique. En fait, on appelle la raison, c'est un ensemble de principes qu'on se met d'accord dans une société donnée. Et ça relativise complètement.
Nous, là, on est toujours sur la société qui doit se propager partout. Par exemple, en Polynésie, et qu'est-ce qu'on a fait? Les femmes, elles ont, hop, on leur a mis des chemises. Une rationalité par rapport au lieu. En France, il y a des lieux différents.
Donc vous direz qu'il y a autant de rationalité qu'il y a de lieux.
Voilà, et voilà, c'est ça, c'est par rapport au lieu. Et je crois que on a voulu détourner des cours d'eau.
Au niveau écologique.
Au niveau écologique.
Ah, oui.
Donc, il faut arrêter de vouloir classer les choses dans des dossiers en se disant qu'il y avait raison ou vous, la vérité ou la réalité. On engage un véritable doute. Parce que là, c'est là le problème actuel. Enfin, non, c'est j'ai du pouvoir, donc toi, tu entendras ce que je. On n'est pas dans la vie, là. On nous impose la survie. Ça va, on est dans le mode survie. Pas dans la vie.
On n'est pas dans la vie. Et c'est pour
on
ça.
On est dans la survie.
C'est pour ça que Habermas, que j'ai cité, qui va tout à fait. Vous êtes tout à fait Habermasienne, parle de raison dialogique. Mais avec les problèmes que si on admet qu'il y a autant de culture qu'il y a de rationalité, qu'est-ce qu'on fait alors de l'avertissement des courants adlomistes qui nous dit attention, il doit être. Et de l'homme, elle se. Pas d'une région à l'autre. On va retomber sur ces problèmes-là après. Relativisme juridique.
Quelque part, c'est vrai. La justice, elle fait deux poids, deux mesures.
Voilà, mais ça, c'est un autre problème. C'est au niveau de l'application. Mais je vois ce que vous voulez dire. Tout à fait. Alors, qui voulait intervenir?
Oui, justement, c'est tout ce qui.
Et par rapport à la manière dont on va être traité, quoi. C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Oui. La question est... Mais j'ai pas la réponse.
La réponse n'est pas si simple que ça.
La réponse n'est pas si simple.
Que je pourrais supposer...
Ah oui, le fameux droit d'ingérence.
Dernière information, on rapatrie les enfants. Les enfants de ces gens-là...
Justement, si on commence à rapatrier certains, il y en a d'autres, à faire des distinctions. Enfin, vous voyez, là, on n'est plus... pas tout à fait dans l'universel, mais plus non plus totalement dans le respect de chaque juridique.
Un entre-deux, en fait.
Voilà, c'est un entre-deux. On voit qu'en fait, les politiques sont très embarrassés de savoir ce qu'il faut faire, et que la morale et le droit se superposent. Comment la réponse droit adlomiste est universelle? Pas forcément fausse, mais elle peut être très facilement simpliste.
Il ne faut pas oublier les intérêts qui sont toujours aussi mélangés à tout ça.
Oui, absolument. Parce qu'on est dans des contextes.
C'est pas des enfants de cœur. Enfin, mais personne n'est enfant de cœur.
Alors, ah oui, absolument. Qui voulait intervenir? Oui, je vous en prie. Oui, il avait repris d'Ovid.
Ovid.
Ah oui, voilà, Ovid. C'est vrai que ça n'a plus ça.
Face à la manière dont il pouvait, je n'ai pas d'idée. Quand il aurait là, confiance dans notre monde.
Ah oui. Je suis content que vous parliez de l'éducation, parce que, évidemment, la question de l'éducation, la question qui venait après celle-là. Hein. Moi, j'ai été frappé pour. Pas tellement pour vous répondre, mais pour prolonger ce que vous avez dit, par le thème de l'indignation. Vous rappelez que un monsieur qui s'appelait Stéphane Hessel, à page, indignez-vous, pour rappeler notamment à la jeunesse qu'on a tous cette capacité d'indignation face à l'injustice, face au mal, et qui allait être vigilant, parce que ce qu'il avait subi, ce que l'humanité avait subi, ça pourrait recommencer aussi. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait un immense message d'espoir. Hein. Quand on dit indignez-vous, c'est qu'on suppose qu'on s'adresse à des gens qui sont capables d'avoir cette capacité d'indigner. C'est vrai que, moi, quand je vois certains. Pas remarqué, j'en sais rien. Mais parfois, alors peut-être que je ne jette pas la pierre, mais quand je vois certains jeunes aujourd'hui, je me demande si même ça a un sens pour eux. Quoi. Alors je ne jette pas la pierre, je pense à mes élèves par exemple, mais peut-être qu'ils sont aussi tellement soumis à tellement de pression. Mais parfois j'ai l'impression qu'ils ont perdu cette pression, ou qu'on ne leur a pas donné.
Moi, je pense que la capacité d'indignation...
Oui, c'est possible. Parce que l'indignation... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même la... C'est peut-être cette capacité d'indignation face à l'injustice, par exemple. C'est quand même la première marche de l'exercice de la conscience morale. Vous êtes d'accord ? Si on ne s'indigne pas, c'est que...
Oui, mais comment on peut s'indigner ? Ils sont pas tous chômeurs et tout ça. Mais ils savent que de toute manière, que leurs parents, ils fassent n'importe quoi, leur contrat de travail, ils seront peut-être remaniés. Et que de toute manière, quoi qu'ils fassent, ils resteront une pression et qu'ils n'auront pas gain de cause. Comment vous voulez qu'ils s'indignent ? Ils savent d'avance que s'indigner, ça n'aura aucun poids.
Oui, autrement dit, qu'est-ce qui pourrait le...
Peut-être que là, oui, ben oui, quand on voit ça, faut se poser des questions. Oui.
Qu'est-ce si je te recommande un film, c'est...
Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais bien sûr, mais alors, c'est que ça existe, ça, puisque même monsieur ne puisse même plus s'indigner. Ils se disent que c'est inutile, que de toute manière, ils n'ont pas gain de cause.
Alors, Jean-Christophe, on terminera là-dessus après. Oui. Alors, deux dernières questions.
Est-ce que la société actuelle accepte de beaucoup de choses pour réduire ou finalement donc...
Ah, je crois. Il y avait deux absences. C'est fait très bon. Non, mais c'est... Allez, moi je dis comment les choses. Pas de camoufler, mais les Chinois, c'est nous en fait. C'est comme ça que ça. Vos droits de l'homme, c'est... Les dirigeants chinois, bien sûr, par le reste de la communauté internationale, comme les étudiants chinois, quelle que soit la question que vous leur posez, leur culture. Souvent, j'ai demandé, vous avez compris ce que j'ai dit ? Oui, oui. Et puis après, je me raconte. Vous voyez comment la question du tribal, que moi j'ai abordée de manière qui est très métaphysique, par vos interventions, mais c'est un peu donner une couleur plus sociale, plus politique aussi. Mal, je ne veux pas terminer ma surnote, moi je voudrais vous dire que moi, il me semble pas violente. Violence qui est plus cachée, plus masquée. Les époques patinées de culture, codes sociaux, derrière le vernis, quand on gratte un peu, je trouve qu'elle est analysée et bardée, cachée.
Les médias sont là pour dire, monte en épingle les choses. Je me demande
cette impression.
Comment
avec les médias, Internet, tout ça. Il y a beaucoup de postes, leur mal-être sur Internet. Toujours été violent, c'est vrai. Je la sens violente. La perception qui est faussière. Moins de suicide au Moyen-Âge que maintenant.
Mais il y avait moins de monde.
Il y avait moins de monde aussi. Voilà, je sens que ça va encore faire discuter entre vous. C'est le principal. Je vous remercie.